France Inter. France Inter. Le 6-9 du week-end.
Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Karine, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Alors cette saison, hein, certaines plantes sont sensibles au froid, d'autres y résistent. Mais pourquoi donc ?
Oui alors, il existe deux catégories de plantes pour bien comprendre la situation. Les plantes qui sont à feuilles caduques et les plantes à feuilles persistantes car elles ne réagissent pas de la même façon face au gel.
Alors vous nous avez déjà expliqué que les plantes à feuilles caduques, si j'ai bien suivi, anticipent l'arrivée du froid et donc se mettent en dormance.
Oui, elles se comportent ainsi car elles vivent là où l'eau des cellules et de la sève peut geler et endommager gravement les tissus végétaux. En se débarrassant préventivement des feuilles et en cessant de s'alimenter, les plantes se mettent ainsi à l'abri.
Et il existe aussi des plantes qui résistent au froid. Et ben comment est-ce qu'elles font pour ne pas geler, elles ?
Alors, en général, et c'est là où ça devient complexe, les feuilles des arbres persistants sont plus petites que celles des caducs. Mais cela ne suffit pas. Elles sont donc peut-être mieux armées, mais pas seulement. En automne, les arbres et arbustes ont adopté une stratégie élaborée et complexe. Ils réduisent les dégâts du gel et préservent leur tissu en épaississant le liquide contenu dans les cellules par une absorption massive de sels minéraux. Tout ça est très complexe,
de sels minéraux.
Bien entendu, mais j'essaie de le simplifier. À l'extrême de plus, et toujours en hiver, ces mêmes végétaux stoppent leur croissance. Donc, même quand ils ont des feuilles en hiver, les arbres sont en quelque sorte en dormance, eux aussi. Mais eux sont capables de reconstruire les vaisseaux conducteurs du bois endommagés par le froid, sitôt le printemps revenu. Alors, tout ça est extrêmement complexe, effectivement. Mais je rappelle que pour bien comprendre, quand vous êtes dans les pays les plus chauds de la planète, quand vous êtes du côté des tropiques, il fait des températures clémentes toute l'année, eh bien, la végétation reste toujours verte, raison pour laquelle au nord, dans l'hémisphère nord, là où les hivers sont marqués, eh bien, il y a également des saisons marquées par la chute des feuilles.
Mmh. Alain Baraton, vos conseils aux auditrices et auditeurs d'Inter. Julien vous demande, est-il judicieux de secouer les branches des arbustes si la neige les recouvre ?
Alors oui et non. Alors on n'attend pas que les branches cassent avant de retirer la neige, mais on évite de secouer des branches quand il gèle. Donc il y a une fragilité du végétal, le bois devient cassant. N'attendez pas, quand vous avez un vieux cèdre, bien entendu, que le poids soit tel que la branche ne cède. Mais très difficile de faire tomber la neige. J'ai connu des vieilles personnes qui n'hésitaient pas à prendre le fusil de chasse pour tirer dans l'arbre, pour faire tomber justement la neige. À éviter, bien entendu, parce que ça peut quand même avoir quelques conséquences fâcheuses. Mais il est vrai qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. L'importance également de privilégier les essences, je ne cesse de le dire, régionalistes. Ne prenez pas non plus des plantes trop sensibles à la neige quand vous habitez du côté des Alpes ou des Pyrénées. Donc, on résume, oui, on remue, on agite les végétaux quand il y a de la neige pour que la neige ne soit pas un surpoids.
Voilà, c'est juste une question de poids, en
mais,
fait.
Oui, mais uniquement quand il ne gèle pas, car quand il gèle, la plante devient très fragile et vous pourriez faire des dégâts bien plus importants que le poids de la neige.
Tombe la neige, tiens, c'est une chanson de Adamo, me semble-t-il,
oui.
Ça. Marthe vous demande, à propos d'un tilleul d'une trentaine d'années couché par le vent, puis-je le redresser, demande Marthe.
Ça peut arriver, effectivement. Vous avez eu beaucoup de vent les jours qui viennent de passer, et quantité d'arbres se sont couchés. Alors, quand l'arbre est relativement jeune, 30 ans pour un tilleul, c'est tout à fait possible. Il est parfaitement envisageable de redresser l'arbre. De toute façon, c'est ça où vous le coupez. Donc, autant tenter l'expérience. Mais avant de redresser l'arbre, il faut préparer le terrain, à savoir dégager la partie vers laquelle vous allez redresser le végétal, tailler les racines endommagées pour qu'elles puissent cicatriser au mieux. Profitez-en pour mettre une bonne terre et du bon terreau. Vous redressez, bien entendu, vous aubanez l'arbre, à savoir que vous le fixez avec des piquets, des câbles pour qu'il reste bien. Voilà, des haubans. Merci pour cette précision. Et vous arrosez copieusement. Voilà. Et logiquement, donc oui, il est possible de redresser.
C'est compliqué en ce moment de d'arroser copieusement.
Oui, c'est compliqué, mais c'est pourtant
indispensable.
Alors, bien entendu, vous arrosez copieusement, sauf s'il gèle. Quand il gèle, dans le jardin, on ne fait rien. Et on attend qu'il dégèle pour arroser copieusement. Mais un arbre redressé, c'est comme un arbre planté ou transplanté. Il a besoin d'avoir ses racines en contact direct avec la terre.
Caroline a hérité d'un terrain souvent inondé. On lui conseille d'y planter des peupliers pour absorber l'eau. Est-ce que c'est judicieux ?
Alors, c'est judicieux, mais je voudrais simplement rappeler la chose suivante. Ce n'est pas parce qu'un peuplier tolère de vivre avec les racines dans l'eau, qu'il absorbe davantage d'eau qu'un chêne. Un chêne absorbe plus d'eau qu'un peuplier. Sauf qu'un peuplier, lui, qu'un chêne ne peut pas vivre avec les racines dans l'eau, contrairement au peuplier. Donc, pour assécher une terre, pour exploiter un sol, on va mettre davantage des peupliers, des saules ou des aulnes. Ou aulnes. Ah, le saule pleureur, quelle majesté. Qui n'a pas vu un alignement de saule pleureur dans sa vie, a raté sa vie. C'est extraordinaire. J'ai vu. Ah oui, oui. Des alignements à perte de vue de saule pleureur. Je vous assure qu'il y a une allure incroyable. Le saule pleureur a des taches jaunes au printemps. Il fleurit délicatement vert dès les premiers rayons du soleil. C'est merveilleux. Et puis, le saule pleureur est quand même l'arbre qui bouge le mieux avec le vent.
Mais bon, si on revient à la question, il n'y a aucun arbre qui permette d'absorber comme
non,
ça de l'eau.
Non, parce qu'il n'y a pas, vraiment d'absorption. Et je vous rappelle que l'eau, généralement, les terrains inondés, c'est principalement en automne et en hiver, à une époque où le peuplier n'aura pas de feuilles, donc il n'y a pas d'absorption. Il va commencer à consommer l'eau au début du printemps, à peu près, pour un chêne, il faut compter 140 litres au jour. C'est à peu près la même chose pour un peuplier. On est très loin des 4000 litres au jour pour un vieux séquoia de Californie.
Ah oui, effectivement.
Ah oui.
Valentin vous demande, Alain Baraton, que préférez-vous dans le potager, griffage ou bâchage ?
Bêchage. Le bêchage. Donc
bâchage, mettre une bâche. Ah non ?
Ah oui, non mais moi je peux vous dire, alors on va répondre aux trois. Donc, griffage, ça consiste effectivement à donner un petit coup superficiel, et c'est ce que les écologistes préfèrent aujourd'hui.
On fait avec le râteau, ça.
Voilà, hein. J'entends pas écologiste, je parle vraiment l'écologie. Le bêchage, c'est retourner la terre à le rendre meuble, idéal pour les pommes de terre, et le bâchage, c'est mettre une bâche par-dessus pour éviter la production de mauvaises herbes, ce qui n'est pas le cas en hiver, elles ne poussent pas, donc on évitera le bâchage.
15 secondes pour un dernier conseil.
Ça va faire sur Laurent Delmas, que je remercie d'être resté. Le salon des orchidées à Rueil-Malmaison, parce qu'on parlait des maisons de retraite qui s'appellent les Glycines. Eh bien, salon des orchidées à Rueil-Malmaison, c'est aujourd'hui et demain, et c'est une belle exposition d'orchidées.
Merci beaucoup, Alain Baraton, et à demain.
À demain.